Voilà. Alors, par quoi vais-je commencer? C'est ma question. Pour ceux que j'ai déjà eu, vous savez que j'ai adopté une position classique qui consiste à considérer que toutes les lettres de Paul sont de Paul. Voilà. Donc, j'avais le choix, et jusque y compris. Les pastorales, les lettres pastorales, donc la première à Timothée, la deuxième à Timothée, la lettre à Tite. Alors je ne savais pas trop par quoi commencer. J'ai pas pris un ordre chronologique, puisque la chronologie de Paul, dont j'ai dû vous parler la dernière fois, je crois, est une question très disputée, très compliquée. Je vais en dire juste un petit mot pour faire un peu un récapitulatif. J'ai donc choisi de vous parler, de lire avec vous la première lettre aux Corinthiens. Ce n'est pas la première des lettres de Paul, ça tout le monde en est d'accord. Bon, mais c'est pour ça que j'ai choisi, vraiment une lettre. On va voir pourquoi. Et du coup, c'est intéressant comme genre littéraire. Donc, je vais lire la première aux Corinthiens. Alors je vais quand même faire quelques rappels, mais ce sera très bref, des choses que j'avais sans doute évoquées la dernière fois que je suis venu. Donc quelques rappels brefs, chronologiques, enfin bref, simplement, juste pour avoir un panorama. Au point de vue chronologique, je dirais donc que nous ne savons pas exactement les dates de naissance, ni même de mort. De Saint Paul, donc il y a beaucoup de flou, et ces informations chronologiques sont d'autant plus floues que elles nous sont fournies soit par Paul lui-même, mais en très petit nombre, Paul parle très peu de lui, soit dans les Actes des Apôtres, et il se trouve que les Actes des Apôtres ne paraissent pas toujours en conformité, en particulier chronologique, avec les écrits de Paul. Alors on ne sait pas quand il est né. On sait plus ou moins quand il a pu rencontrer le Christ à Damas. Et je vais vous le donner un peu comme ça, sans trop justifier. Donc on pense que c'est autour de l'année 34. Sachant que Jésus a dû mourir en l'an 30. Quand est-ce qu'il est mort? On ne sait pas. Peut-être lors des persécutions de Néron, peut-être avant. Entre 64 et 67. Donc voilà le cadre très vaste de la vie de Paul. Alors il y a un certain nombre de points donc un peu plus précis. L'un des points les plus précis, c'est quand même que Paul fut essentiellement un voyageur. Ça, c'est Luc qui nous le présente comme cela. Mais parce que Paul ne fait pas non plus, lorsqu'il parle de lui, lorsqu'il ne fait pas tellement état de tous les voyages qu'il a faits, il les évoque un peu en 2 Corinthiens 11, par exemple. Il évoque très rapidement dans 2 Corinthiens 11 ce que fut sa vie et les aléas de sa vie. C'est un passage bien connu. Il nous dit, sont-ils hébreux, moi aussi? Ils sont israélites, moi aussi? Ils sont postérité d'Abraham, moi aussi? Ils sont ministres du Christ, je vais dire une folie, moi plus qu'eux. Bon, donc là, il se débat contre des gens qui ne sont pas d'accord avec lui, et il ajoute, donc bien plus par les travaux, bien plus par les emprisonnements, infiniment plus par les coups. Souvent j'ai été à la mort, 5 fois j'ai reçu 10 gifles et 39 coups de fouet, 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. Il m'est arrivé de passer un jour et une nuit dans l'abîme, voyage sans nombre, danger des rivières. Danger des brigands, danger de mes compatriotes, danger des païens, danger de la ville, danger du désert, danger de la mer, danger des confrères. Bon, là, c'est assez explicite, mais sans que ce soit plus précis que cela. On est sûr qu'il a connu une carrière mouvementée, mais voilà le genre d'information qu'on trouve chez Paul. Donc, ça ne nous précise pas énormément les choses. Donc, on est obligé quand même de s'en tenir à plus ou moins ce que dit Luc, même si aujourd'hui, les commentateurs sont habituellement très réservés sur les informations données par Saint-Luc, je le suis beaucoup moins qu'eux. Mais enfin bon, je vais pas rentrer, j'avais évoqué la dernière fois. Donc c'est un grand voyageur, et l'on pense qu'il a commencé ses voyages assez tôt, beaucoup plus tôt même qu'on le dit parfois, et qu'on le dira dans votre chronologie à la fin de la Bible de Jérusalem que vous avez. Donc si je vous dis qu'il s'est rencontré le Christ en 34 sur le chemin de Damas, Paul nous dit ensuite qu'il est parti vers l'Arabie. L'Arabie, c'est l'Est du Jourdain. C'est un peu la Jordanie d'aujourd'hui. Et il nous dit qu'il a passé 3 ans là-bas, avant de revenir à Damas. Ça, il nous dit ça dans la lettre aux Galates. Au début de la lettre aux Galates, c'est là qu'il y a plus d'informations. Donc c'était déjà d'une certaine manière un premier voyage, mais ce n'est pas un voyage... on ne sait pas s'il a commencé à prêcher dans les synagogues ou au Gaz. Mais il l'a vraisemblablement fait, mais enfin on n'est pas très sûr, entre 34 et 37. Et alors c'est là que je diverge donc des chronologies habituelles de Paul, comme d'autres, comme un certain nombre d'autres auteurs. Je pense qu'il faut commencer les voyages de Paul aussitôt après, à partir de l'année 37, de son retour de Damas. 37, je vais expliquer pour juste un petit peu pourquoi, je vais juste faire une référence. Et alors du coup, ça veut dire qu'il a commencé ses voyages, il a commencé en 37 et qu'il les a achevés à peu près en année 58. Ça fait quand même 21 ans où, évidemment, il a passé 2 ans à Éphèse, un peu plus de 2 ans. Bon, mais enfin, il a été essentiellement un voyageur. Voyager pendant 20 ans, ça fait quand même pas mal finalement, de 37 à 58. Vous êtes un peu plus stable que lui. Voilà. Donc, Luc nous dit qu'il y a eu 3 voyages. Bon, ça après, c'est faut voir comment on organise les choses. Mais 3 grands voyages, disons. Ça. Alors donc, ces informations, elles nous viennent donc essentiellement, je vous dis, sur les voyages de Saint-Luc. Mais finalement, comme le veulent les commentateurs aujourd'hui, on s'intéresse d'abord à Paul et puis on se méfie de Luc, on arrive quand même à peu près au même résultat. J'ai regardé. Bon, la question, c'est de savoir quand est-ce que... Il a commencé. Alors je crois que je l'avais évoqué à la fin, mais je vais juste y faire une petite allusion ici. C'est un élément parmi d'autres, mais c'est un élément important. Si vous vous rendez dans les Actes des Apôtres au chapitre 18, donc je le redis pour ceux qui n'étaient pas là, je lis la chose suivante. Donc je suis au chapitre 18 des Actes. Ça commence comme ceci, sur ma Bible de Jérusalem. Après cela, quand ça commence comme ça, ça veut dire que, c'est très caractéristique de Saint-Luc, ça veut dire que je n'ai pas d'informations précises. Après cela, ça veut dire, je sais quelque chose, je vais vous le mettre là, mais voilà. Si j'avais une information précise, au bout de 2 semaines, il l'aurait mis. Parce qu'il sait aussi mettre des informations précises. Donc quand il commence après cela, ça doit être en grec, meta tauta, un truc comme ça. Bon, après ces choses, très bien. Donc Paul s'éloigna d'Athènes et gagna Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du pont, qui venait d'arriver d'Italie avec Priscille, sa femme, à la suite d'un édit de Claude, qui ordonnait à tous les Juifs de s'éloigner de Rome. Il se lia avec eux, et comme ils étaient du même métier, il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient de leur état fabricants de tentes. Chaque sabbat, il discourait à la synagogue et s'efforçait de persuader Juifs et Grecs. Donc voilà, Paul arrive à Corinthe, et il y retrouve, parce qu'ils arrivent, Priscille et Aquila, qui viennent d'être expulsés de Rome à la suite d'un édit de Claude. Très intéressant parce que, évidemment, c'est une information, ceci, qui peut être évaluée historiquement, si jamais on a la trace de cet édit de Claude. On l'a, je vous le dis, mais... Bon, évidemment, c'est pour ça que ce chapitre est très intéressant, parce qu'il y a un élément important là. On a un repère autre que biblique. Bon, je continue. Je vais aller un peu plus loin et j'arrive à verset 7. Se retirant de là, Paul se rendit chez un certain Justus, homme adorant Dieu, dont la maison était contiguë à la synagogue. Crispus, le chef de synagogue, crut au Seigneur avec tous les siens. Je m'arrête là et je vais un peu plus loin encore, toujours apparemment dans la suite du texte, dans la suite logique et chronologique apparemment, et j'arrive au verset 12. Alors que Gallion était proconsul d'Achaïe, les Juifs se soulevèrent d'un commun accord contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant « Cet individu cherche à persuader les gens d'adorer Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche quand Gallion dit aux Juifs. Gallion, intéressant là, on a encore un repère historique. Parce que si on n'entend pas parler de Gallion ailleurs, on va pouvoir se situer. « s'il était question de quelques délits ou méfaits, j'accueillerais juif volontiers votre place, comme de raison. Mais puisqu'il s'agit de contestations sur des mots et des noms et sur votre propre loi, à vous de voir, être jugement en ces matières, je m'y refuse. Ça, c'est presque Pilate, n'est-ce pas? C'est Galion qui joue les Pilates, si j'ose dire, qui dit c'est votre affaire, moi je ne me mouille pas. Bon, c'est aussi une manière qu'a Luc de tenir à l'écart aussi les Romains, il essaie par moment de ne pas trop les charger. Donc, et qu'est-ce qui se passe ensuite? Il les renvoya du tribunal, tous alors se saisirent de Sosthène, le chef de synagogue. Vous avez bien entendu, Sosthène, le chef de synagogue. Quelques versets avant, c'était Crispus, le chef de synagogue. Donc il y a un problème. Alors, évidemment, après, une fois qu'on découvre un problème comme ça, il faut le résoudre. Alors, il faut le résoudre en fonction de ces deux noms, il faut le résoudre en fonction de l'édit de Claude, il faut le résoudre en fonction de Galion. Ça fait beaucoup. Mais enfin, on y est, évidemment, c'est le but du travail exégétique et historique d'essayer de resituer les choses autant que possible. Bon, donc, encore une fois, je ne vais pas vous détailler la solution qu'on peut y apporter. Mais enfin, c'est sûr qu'il faut quand même expliquer que Crispus soit devenu Sosthène. Et il y a beaucoup de solutions extrêmement ingénieuses qui ont été proposées. Je me rallie complètement à la solution qui est proposée de plus en plus aujourd'hui par un certain nombre de commentateurs, qui est la suivante. Elle est à la fois tout simple, en même temps, elle paraît extrêmement, tout à fait extravagante. Eh bien, c'est simplement que les épisodes que Luc vient de nous rapporter ici, la rencontre avec Priscille et Aquila à la suite des livres de Claude, et le passage devant Galion, ne sont pas en continuité chronologique absolue. Ça veut dire que Crispus a été chef de synagogue à un moment et que Sosthène a été chef de synagogue à un autre moment. Alors que l'impression que nous donne Luc, c'est qu'il nous fait un récit strictement continu. Eh bien, en fait, il est possible de le dire autrement, et je vais le relire pour vous montrer que, bon, ça peut être lu autrement. Je lis le verset 11. Il résida là un an et six mois, enseignant aux gens la parole de Dieu, alors que Galion était proconsul d'Achaïe. Voilà ce qui s'est passé. Mais ça ne veut pas dire du tout que là, alors que Galion était proconsul d'Achaïe, c'est passé juste après, il y a un an et six mois. Voilà ce qui s'est passé alors que Galion était proconsul d'Achaïe. Est-ce que c'est clair si je fais la différence comme ça, en le disant comme ça? Il réside là un an et six mois. Et puis voilà ce qui s'est passé alors que Galion était proconsul d'Achaïe. Donc ça veut dire qu'entre la première partie, verset 1 à 11, et la deuxième partie, verset 12 à 17, il y a un laps de temps qui s'est écoulé. Ah, maintenant, on va essayer de l'évaluer en fonction de l'information dont on dispose avec Claude, de l'information dont on dispose avec Galion. Bon. Et ça peut être très long. Alors évidemment, ça peut surprendre, mais c'est simplement que Saint-Luc, je vous dis encore une fois, les gens commencent à le découvrir, les commentateurs commencent à le découvrir, mais moi ça me frappe depuis longtemps, c'est que Saint-Luc ne cherche pas nécessairement à donner un récit absolument continu et chronologique. D'abord parce qu'il n'y avait pas toutes les informations, il écrit plus tard, et puis parce que son objectif, c'est de donner un récit cohérent, qui catéchétique. Donc ce n'est pas d'abord une proposition chronologique. Les historiens d'aujourd'hui, eux, ont un autre objectif. Eux, en général, ils essayent de faire une étude et de faire quelque chose qui soit bien noué, charpenté au plan chronologique. Ce n'est pas l'intention de Luc, et il le dit dans les premiers versets de son évangile. Donc maintenant, je passe là-dessus. Je vais m'arrêter sur cette partie qui était juste une forme d'introduction. Donc, il est possible, mais encore une fois, de situer l'édit de Claude en l'année 41. Et par contre, il est possible, c'est contesté. Mais à mon avis, je trouve ça de plus en plus incontestable. Mais enfin bon, il est possible de situer en 41. Et par contre, tout le monde est d'accord sur le fait que la Galion a été proconsul en l'année 51-52. Ça, c'est un fait. Alors là, maintenant, tout le monde est vraiment d'accord là-dessus. Ça veut dire que Luc rassemble dans un même chapitre deux événements qui ont fait 10 ans de distance. Ça peut vous paraître assez extraordinaire, mais encore une fois, c'est la manière de proposer de Saint-Luc. Voilà. Alors si en 41, c'est à ce moment-là, ou 41, où il passe à Corinthe, ça veut dire que la fondation de l'église de Corinthe, elle ne date pas de 50, je sais pas combien, 51-52, là au moment où il passe devant Galion, ou des années, de l'année et demie qui a précédé, mais bien plus tôt. Et donc ça suppose, si Paul est passé à Corinthe en 41, ça suppose qu'il a déjà fait son deuxième voyage, il a déjà fait un autre voyage avant, ça suppose qu'il a commencé ses voyages beaucoup plus tôt. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'aujourd'hui, mais c'est en particulier à cause de ce chapitre 18, des Actes, que Paul a vraisemblablement été un grand voyageur, et un grand voyageur très vite, dès les années 37. Ce que je vous disais, le premier voyage, il l'a fait dès l'année, à mon avis, l'année 37 à l'année 40-41. Et puis ensuite, il est allé à Corinthe. Voilà. Alors, je ne vous cite pas les noms de ceux qui soutiennent cette proposition, mais vous la, aussi, vous la trouverez, si vous avez les ouvrages, je ne sais pas, chez, en particulier, Justin Taylor. L'avantage de Justin Taylor, c'est que c'est un Anglais, un Américain, je crois, mais il écrit en français, en fait. Et c'est dans les Actes des Apôtres, chez Gavalda, toute une série sur les Actes des Apôtres, une lecture des Actes des Apôtres, Justin Taylor. Il enseigne à l'école biblique de Jérusalem, ce n'est pas un dominicain, c'est un SMI, je crois. Voilà. Donc, Société de Marie. Marie, ou Marianne, je ne sais plus. Voilà, donc il a lu, il est plutôt un historien, et il a écrit un commentaire des Actes des Apôtres en plusieurs volumes. Voilà. Alors, donc, je le redis, donc Paul a été un grand voyageur. Il a passé l'essentiel de sa vie voyager, a fondé donc des communautés. Quelle relation a-t-il entretenu avec ces communautés? Est-ce que c'était des relations suivies? On est bien en peine de le dire, là encore. Lors de son premier voyage, il est fait en Asie mineure, actuellement dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, le sud de la Turquie. Il fonde des communautés, on nous dit qu'il est passé à Iconium, Derbe, Antioche de Pisidie, etc. On n'a pas de lettres à Iconium, de lettres à Antioche de Pisidie ou de lettres à Derbe. Bon, ça veut dire qu'on n'en a pas vu. Enfin, on n'en a pas, en tout cas. Ce qu'on sait par contre, c'est que dans son deuxième voyage, il repasse par là. Donc il essaie quand même de garder un lien avec ses communautés. On sait aussi, il le dit dans ses lettres, qu'il était aidé, Paul, par un certain nombre d'acolytes. Il la parle comme les coopérateurs de Dieu, donc qui ont joué certainement un rôle. Les plus connus, c'est Timothée, Tite, mais il y avait Epaphras, etc. Il y a tout un tas de gens qui ont aidé Paul et qui ne sont certainement pas restés inactifs, qui ont pu aussi eux-mêmes voyager. Mais on ne sait pas ce qu'ils ont fait. On n'a pas de lettre d'Epaphras à la communauté de Colosse, par exemple. Bon, mais ça ne veut pas dire encore une fois qu'il n'y a rien eu, mais on n'a pas. Mais on est sûr, par contre, qu'ils ont joué un grand rôle, parce qu'il nous dit lui-même, il nous dit Epaphras est revenu, il est reparti, par exemple, des choses comme ça. Donc, d'accord, il a été aidé par tout un tas de gens. Donc, il y a eu certainement une activité assez soutenue, et puis il y avait aussi les initiatives d'autres que Paul. Auprès de Corinthe, par exemple, on va y revenir, il y avait Apollos, puisqu'on va le voir dans la première aux Corinthiens, il y a Apollos qui semble aussi jouer un grand rôle. Bon, Apollos, manifestement, ce n'est pas le collaborateur de Paul, comme ils appellent, celui qui travaille habituellement avec lui. Paul ne le cite pas, sauf quand c'est dans la première aux Corinthiens en particulier. Bon, il est évident qu'Apollos, puisqu'il y avait un parti d'Apollos, on va le voir dans la première aux Corinthiens, il est évident qu'Apollos a joué un grand rôle à Corinthe, qui est passé. On ne se serait pas prévalu de lui si il n'avait joué qu'un rôle mineur. Donc Apollos a certainement joué un grand rôle, mais de sa propre initiative, ou soutenu par d'autres communautés. Donc il y a certainement tout un tissu de relations qui s'est créé, qui a été entretenu, mais c'est vrai que vous voyez par rapport à tout cela, on n'a que peu d'informations. Donc des lettres, on en a peu, quelles sont, et en plus aujourd'hui, ça je vous l'avais évoqué sans doute la dernière fois, en plus aujourd'hui sur ces lettres, certaines voient leur authenticité paulinienne contestée. Donc non seulement on n'a pas beaucoup de lettres de Paul, mais en plus on nous dit les versets qu'on a et encore moins. Évidemment, ça fait peu. Donc aujourd'hui, on vous dit, il faut éviter, si vous voulez parler de Paul, d'utiliser la première à Timothée, la deuxième à Timothée, la lettre à Tite. On vous dit, évitez la deuxième aux Thessaloniciens. On vous dit, Éphésiens et puis copie de Colossiens. Et encore, Colossiens, c'est même pas sûr que ce soit de Paul. Donc à l'Ouest, il reste pas beaucoup, hein. On nous a enlevé pas mal. Alors déjà qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur Paul, mais alors là, avec ça, on en a encore beaucoup moins. Là. Donc, si on enlève, alors du coup, il reste ce qu'on appelle aujourd'hui, vous verrez ça souvent dans des commentaires, vous dites, nous ne nous appuyons que sur les lettres authentiques de Paul, il y en a 7. Moi, je croyais qu'il y en avait 13, mais non, il y en a 7, finalement. Il n'en reste plus que 7. J'y assiste pas parce que je veux faire un cours sur la pseudépigraphie, mais vous savez que je suis dans une certaine expectative par rapport à tout ça, et dans un doute profond. Mais bon. C'est ce qui se dit. Mais vous savez, quand j'enseigne l'Institut catholique de Toulouse, je suis l'un des rares, je suis connu comme ça, à dire que les lettres de Paul sont de Paul. Parce que tout le monde trouve ça ridicule. Bon. Donc, voilà. Alors, donc ça ne fait pas beaucoup d'informations. En revanche, ce qu'on vous dit aussi, alors ça c'est bien parce qu'on était passé à 7, et puis on va de nouveau élargir, et ça c'est pas entièrement faux, ça par contre je le dis, j'y reviendrai. On vous dit oui, mais sur ces 7, il y en a certaines, ce sont des. Comment dire, des collages. Donc il n'y a pas une lettre, en fait, ça peut en faire deux. Et ça, je crois que c'est un peu vrai. Je reconnais, j'ai été. Vous avez vu, a priori, toujours moi très sceptique, mais c'est le doute scientifique hein, qui m'anime. Et donc, a priori, quand on me dit quelque chose comme ça, je suis très sceptique, mais vraiment, en regardant un peu mieux, je pense que c'est un peu assez vrai. Pas aussi vrai qu'on le dit. Enfin, il y a beaucoup aussi de laisser aller. Mais enfin bon, on vous dit là par exemple la deuxième lettre aux Corinthiens, qui fait dans 13 chapitres, eh bien il y a les 9 premiers ou peut-être les 8 premiers qui forment une lettre, le chapitre 9 qui en forme peut-être une deuxième, et le chapitre 10 à 13 qui en forme peut-être une troisième. Ça, je pourrais vous montrer, c'est pas impossible. Bon, puis ça a été, et c'était plus commode aussi, on les collait les unes aux autres, et puis finalement on les distribuait comme ça. Bon, ça, c'est pas impossible. Après tout, on imagine assez bien la chose, même aujourd'hui encore. Si je vous écris 3 lettres, il est possible que vous envoyez d'un coup les 3 lettres à un copain, ça devient toute une seule lettre. Oui, c'est pas impossible du tout, ça. Par contre, quand on vous dit Philippien, qui est normalement une seule lettre, en fait, il y en a 3 ou 4, moi j'en vois peut-être 2, mais c'est le maximum que je vois. Mais alors là, parce qu'on vous dit, il faut prendre ces versets-là, puis il faut Jésus avec ces versets-là, puis il faut Jésus avec ces versets-là, puis alors vous cliquez un peu comme ça, évidemment, vous n'avez aucune garantie de la suite du produit fini. Hein. Bon, voilà, alors ça, je suis un peu sceptique. Bon, donc je dis oui avec prudence. Mais en fait, c'est quand même probablement vrai que du coup, même si on ne retient que cette lettre, ce qui n'est pas mon cas, encore une fois, même si on retient que cette lettre, il y en a peut-être, et il y en a sûrement plus. Et puis alors, il y a aussi, et là on va arriver à un Corinthien, il y a aussi toutes celles que nous n'avons plus, mais qui ont existé. Et là, on sait qu'il y en a d'autres. 1 Corinthiens 5, 9. En vous écrivant dans ma lettre, de n'avoir pas de relation avec des débauchés. En vous écrivant dans ma lettre. Nous sommes dans la première aux Corinthiens, théoriquement. Ben donc, il y a une première lettre aux Corinthiens avant la première lettre aux Corinthiens. Nécessairement. Donc, on ne connaît pas toutes les lettres. Et ça, il y a encore un autre cas. Ça, c'est dans les Corinthiens. Mais en 2 Corinthiens 2, versets 3 et 4. Si j'ai écrit ce que vous savez, c'était pour ne pas éprouver de tristesse en venant du fait de ceux qui devraient me donner de la joie. Si j'ai écrit ce que vous savez. Donc, il y a encore une lettre. Et c'est une lettre qu'on appelle la lettre dans les larmes. Parce qu'il semble que c'était une lettre assez lourde, assez pénible, compte tenu de ce que Paul dit juste avant. Je décidais de ne pas revenir chez vous dans la tristesse. Si c'est moi qui vous attriste, qui peut alors me donner de la joie sinon celui que j'aurais attristé? Si j'écris ce que vous savez, c'était pour ne pas éprouver de tristesse. Donc il y a une lettre assez dure, semble-t-il, assez. Où est-elle cette lettre? On a essayé déjà de la retrouver ailleurs, dans d'autres passages de saint Paul, mais je vous dirais éventuellement, c'est douteux. Il en repart en 7-8. Toujours en 2 Corinthiens 7, 8, chapitre 7, verset 8 et suivant. Vraiment, si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Donc je vous disais pour ça, alors on l'appelle la lettre dans les larmes. Ça, c'est son nom. Mais il semble bien qu'on ne l'ait pas. Certains ont pensé que c'était justement les 4 derniers chapitres, 10, 11, 12, 13 de la deuxième lettre aux Corinthiens qui constituait cette lettre. Mais ça ne colle pas vraiment. Or, ça n'est pas non plus un Corinthien. Parce que c'est un Corinthien ne correspond pas à la tonalité de cette lettre qui est évoquée ici. Une lettre de reproche dans les larmes, non. Donc il y en a encore une autre, qui ne semble pas non plus être la première, avant la première dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on en est déjà au moins 4 lettres. Donc on vous parle que la première et la deuxième aux Corinthiens, il y en a 4 au moins. Mais les autres, on ne les a pas. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Dieu seul le sait. Donc il y a eu des échanges réguliers, constants, avec cette communauté de Corinthe. Et sûrement beaucoup plus qu'on ne peut le savoir aujourd'hui. Bon, peut-être qu'on aura la chance un jour de retrouver la pré-première aux Corinthiens, l'intermédiaire aux Corinthiens, mais enfin, ça, à mon avis, je doute quand même. Qumran, c'est quand même pas tous les jours, et puis c'est des conditions très particulières. Bon, donc, Paul ne s'est pas rendu très souvent à Corinthe, on va calculer. Il est allé, si, selon la chronologie que j'ai évoquée tout à l'heure, il est allé une première fois, acte 18, 1 à 11, peut-être années 41. Il est allé une deuxième fois, 52, quand il y a Galion. Et puis il y repasse au cours du troisième voyage. Une troisième fois. Luc évoque ça dans les actes. Voilà. C'était des passages peut-être un peu longs. Il a passé un an et six mois lors de la... d'après Luc, en acte 18, 10. Mais ensuite, il ne repasse pas. Mais il y a des échanges. Il y a des échanges de lettres. Il y a des passages de collaborateurs de Paul. Donc il y a quand même un lien régulier avec cette, en particulier cette communauté de Corinthe, mais on peut le supposer avec les autres communautés aussi. Parce qu'évidemment, quand ils faisaient des étapes, ils s'arrêtaient dans différentes communautés. Voilà pour un peu le cadre général. Maintenant, il me reste, dans les 5 minutes qui me restent, à évoquer un peu Corinthe. Je ne sais pas si tout le monde situe Corinthe. Parce que pour les Européens, c'est toujours très facile. Je me suis toujours... Pardon ? Je me dis que c'est... Bon. J'ai là une... J'ai des cartes. J'ai une belle carte, mais je... quand je la fais photocopier, elle donne très mal. Je vais la représenter vraiment comme ça. Hein. C'est... J'ai aucun nom de dessinateur, en plus. Bon. Alors, on va enlever ça. Hop. Bon, c'est un peu comme ça. Maintenant, on parle un peu comme ça. Et puis, voilà. La Grèce, en fait, ici, ça s'appelle la Macédoine à l'époque. Enfin, bon, aujourd'hui, ça s'appelle la Grèce. Et ça, ça s'appelle toujours la Grèce, mais c'est le Péloponnèse. Bon, mais à l'époque, ça s'appelait Achaïe. Et alors, Corinthe, c'est là. Ici, c'est la mer Égée. Et ici, évidemment, on remonte vers l'Italie et tout ça. Donc. Alors, c'est très sommaire, mais ça suffit. Donc, Athènes est par là. Enfin, pas très loin, par là, pardon, excusez-moi. Bon, je ne sais pas si vous connaissez ces lieux-là. Moi, j'y suis allé il y a pas longtemps. Je ne suis pas retourné depuis que j'occupe de Saint-Paul. Bon, c'est Corinthe se situe dans ce qu'on appelle un isthme. Donc, une espèce de langue de terre assez étroite. Assez étroite. Et qui, évidemment, a un grand intérêt. C'est qu'il joint deux mers, en quelque sorte. Donc, l'idée, c'est l'idée qui a existé très tôt, c'est que pour les bateaux, évidemment, c'est plutôt que de faire pour arriver là, c'est de faire ça. Déjà à l'époque, c'était comme les étudiants. Vous savez, les étudiants, si vous avez deux points, ils ne vous mettez pas une ligne droite, c'est ça, ils leur font automatiquement une ligne droite. Dans les universités, vous pouvez voir, les chemins, ils sont toujours tout droits. C'est un peu comme les étudiants, c'est des questions d'économie, de moyens. Donc on s'est toujours dit, c'est vraiment très d'ailleurs. Or, il se trouve qu'il y a un port ici. Enfin, il y a un port là, et puis un port là. Corinthe n'est pas exactement un port, on dit souvent le port de Corinthe. En fait, Corinthe est entre deux ports, mais très lié à celui-là. Mais ce n'est pas directement un port. Évidemment, l'idée très ancienne, ça a été de créer une espèce de passage, là, pour les bateaux en particulier. Ça n'a pas réussi à l'époque romaine, mais enfin, ils essayaient quand même, ils voulaient faire un canal, évidemment. Donc finalement, ils essayaient quand même de faire passer le bateau par là. Alors, on peut y arriver avec des systèmes de roulis, des trucs comme ça. Bon. Mais vraiment, donc vous voyez que c'est très intéressant d'un point de vue économique comme situation. Et ça l'est aussi pour d'autres raisons, parce que c'est une région qui produit aussi des métaux et du bronze. Donc, je vous dis très sommairement comme ça, Corinthe, c'est une situation, évidemment, tout à fait privilégié pour les relations économiques. C'est donc une ville qui a été détruite au IIe siècle avant notre ère, mais qui a été aussitôt reconstruite par les Romains, parce que c'était vital. Donc c'est une cité extrêmement riche et florissante. Donc pour le commerce et pour les métaux. C'était, aujourd'hui, vous pensez spontanément, quand vous pensez Grèce, on pense Athènes, bon, parce que c'est la capitale, il y a les vestiges, etc. Mais Corinthe, c'est aussi très important, il reste beaucoup de vestiges à Corinthe, quand même. Voilà, je m'arrête là, parce que ça va être l'heure, hein, je crois, hein. Je termine un peu une minute ou deux avant 9h10, mais je crois que c'est 9h10 la limite absolue, sinon après laquelle on fait couper la tête. votre secours est dans le nom du Seigneur.